Lettre de Gustave Courbet à Pierre-Joseph Proudhon en juillet-août 1863. Mon cher ami, je vais vous dire quelques litanies à ma façon, jetées sans ordre. Le mot Dieu doit être proscrit du langage et on doit s'éloigner des idées qui s'y rattachent. Renoncer aux maximes du Christ en tout ce qui condamne et empêche l'homme de se révéler dans sa puissance. La doctrine empirique du Christ a fait 100 fois plus de mal que de bien sur terre. Bannir toutes espèces de religions sous toutes espèces de formes.
Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchêne. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchêne. Marat fut un soyeux, nom de Dieu, à qui lui porte haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne, nom de Dieu, je veux parler sans gêne. Coquin, filou, peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Coquin, filou, peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu. Et je couche sur la paille, nom de Dieu, et je couche sur la paille. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. Tandis que ces messieurs, nom de Dieu, s'arrondissent la panse sans Dieu. Nous crevons d'abstinence, nom de Dieu, nous crevons d'abstinence. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses. Ô vicaire le moins vieux, nom de Dieu, s'en aller à confesse sans Dieu. Se faire ploter les fesses, nom de Dieu, se faire ploter les fesses. Quand il t'appelle le gueux, nom de Dieu, suce à leur équipage. Quand il t'appelle le gueux, nom de Dieu, suce à leur équipage. Un pied sur le moyeu, nom de Dieu, pour venger cet outrage sans Dieu. Crache-leur au visage, nom de Dieu, crache-leur au visage. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Coupe les curés en deux, nom de Dieu, fous les églises par terre sans Dieu. Et le bon Dieu dans la merde, nom de Dieu, et le bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, bourgeois et prêtre sans Dieu. Mérite la lanterne, nom de Dieu, mérite la lanterne.
Bonjour. Dans la vie de Gustave Courbet, il est un épisode que l'on peut qualifier comme étant celui du tableau « Le retour de la conférence ». La vie de Courbet fut émaillée de multiples aventures rocambolesques et celle-là en est une assez peu retenue par l'histoire et les historiens jusqu'à quasiment aujourd'hui, tant le sujet en était et en reste sulfureux. Courbet avait entrepris de régler ses comptes avec les curés et comme il l'a écrit lui-même, enfin, le clergé a trouvé son peintre. Une bonne raison, associée à cette excellente idée qu'a eue le musée départemental d'Ornans consacré à Courbet, de revenir fort en détail sur l'histoire de ce tableau à l'occasion d'une exposition temporaire qui vient de se terminer en avril 2016. Reprenons donc l'histoire tout d'abord. En mai 1862, Courbet part en Saintonge à l'invitation de son ami Jules Castagnari, critique d'art et journaliste. Il va résider chez Étienne Baudry, gros propriétaire et vigneron, qui est un ami de Jules Castagnari. Parti pour une quinzaine de jours, C'est en fait presque une année qu'il va passer là, s'y trouvant tellement bien, dans les conditions d'accueil qui lui sont faites, à lui personnellement et à son activité de peintre. Et de fait, il aura réalisé à la fin de son séjour 71 à 80 esquisses ou tableaux. Et par ailleurs, Étienne Baudry aura mis, tout ce temps durant, à la disposition de Courbet, un praticien, un mouleur, un rapin et deux voitures pour lui et ses invités. Et même l'âne Balthazar pour transporter ses pinceaux et autres accessoires. Repas et banquets avec moult invités se succéderont, des dépenses somptuaires qu'Étienne Baudry assurera sans sourciller, sur fond de climat de républicains opposés au régime. Accessoirement, Courbet trouvera là un bon moyen de mettre à distance une maîtresse encombrante, Léontine, qu'il remplacera sur place avantageusement par une certaine Laure Borot. Bref, tout va bien. Par ailleurs, Courbet cultivait une rancune tenace contre les prêtres depuis de nombreuses années sur laquelle nous reviendrons, et contre l'empereur Napoléon III depuis 1861, suite à un rappel de deuxième médaille au salon de 1861 d'une part, et d'autre part à un rejet pour la Légion d'honneur la même année. Il avait donc dans l'idée de mesurer, citation, « le degré de liberté que nous accorde notre temps », en défiant l'empereur sur ce terrain de la liberté d'expression artistique. Depuis pas mal de temps, il ruminait ce sujet puisque, semble-t-il, en 1854, 9 ans avant, il avait déjà réalisé une étude pour le retour de la conférence. En tout cas, en 1862, il se remet au travail sur le sujet et va profiter de son éloignement à Saintes dans une relative clandestinité pour son travail pour avancer le projet. Pour cela, il va bénéficier d'un lieu propice, un bâtiment inachevé mais fermé dans le haras, que le directeur va bien vouloir lui octroyer pour travailler en secret. Quand le directeur du haras découvrira le tableau, il sera horrifié et demandera à Courbet de ne jamais révéler que ce tableau a été réalisé là. Ce brave homme craignait pour sa position. En janvier 1863, le tableau est presque terminé et Courbet écrit à ses parents « Ce tableau est un tableau critique et comique au second degré. Chacun ici est enchanté. Je ne vous dis pas ce que c'est, je vous le ferai voir à Ornan, il est presque fini. » Officiellement, ce tableau est fait pour être présenté au salon de 1863, où théoriquement, Courbet, titulaire d'une deuxième médaille, devait être exempté du jury selon les dernières règles en vigueur, et de droit autorisé à présenter 3 œuvres de son choix. Mais aussi, il semble qu'un tableau pouvait être refusé pour immoralité, et sans doute c'est ce qui lui est arrivé. Néanmoins, c'est à partir de là que tout se complique, et encore aujourd'hui, personne n'est en mesure de dire si oui ou non le tableau a été proposé pour le salon et refusé. Aucune trace historique n'a été laissée dans ce sens. 2 toiles sont répertoriées au livret du salon, la chasse au renard, le portrait de Madame L. et la statue du pêcheur de Chavaux. On peut aussi supposer que Courbet, sachant le scandale qu'il allait provoquer, a pris les devants en instrumentalisant un peu les choses et en ne proposant pas le tableau au salon, mais au public dans son atelier. On sait aussi que son scénario était un peu écrit d'avance. En effet, il écrit à Isabey dès février 1863 « Si on me refuse, on pourra faire voir ce tableau et gagner beaucoup d'argent. » Ou encore à Albert de la Fiselière « J'avais fait ce tableau pour qu'il soit refusé. J'ai réussi, c'est comme cela qu'il me rapportera de l'argent. » Et dans une autre lettre à Isabey en avril 1863 « S'il est refusé, faites-le retirer de suite et remettez-le dans mon atelier. Un barnum quelconque peut me faire gagner 50 000 francs, soit en France, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Italie. Tout va bien. » Dans un premier temps, donc, Courbet présente le retour dans son atelier du du 32 rue Hautefeuille pendant un mois et le monde fit la queue pour voir ce chef-d'œuvre. Ensuite, comme prévu, Courbet signe un contrat pour une exposition itinérante en Grande-Bretagne, Suisse, Belgique et Allemagne, avec néanmoins quelques soucis puisque en Angleterre, il ne fut pas exposé. Et en juillet 1863, Courbet indique avoir vendu l'œuvre à un entrepreneur américain, M. Ratman de Washington, mais le fait n'est pas sûr. Par contre, il est sûr que ce tableau fut exposé aux USA à New York en mars 1866. Et le tableau était en possession de Courbet à nouveau en 1868 pour une exposition à Gand. Ensuite, le tableau réapparut en 1881 à la première vente de l'atelier Courbet après sa mort, le 31-12-1877, sous le numéro 25 de la vente du 9 décembre 1881, il n'a été adjugé que pour 15 600 francs sur une demande de 30 000. Après, on entre dans un mystère non encore éclairci. Le tableau aurait été vendu par la galerie Georges Petit au début du XXe siècle à un financier se déclarant heureux d'avoir acheté cette cochonnerie pour la détruire. Néanmoins, le tableau n'apparaît jamais dans les catalogues de vente de la galerie Georges Petit. Alors, qui sait si ce tableau n'existe pas toujours et n'est pas, par exemple, enfoui profondément dans les caves du Vatican? Tout est possible à ce jour. En tout cas, le tableau ne devrait pas pouvoir être dans le petit cabinet de Lacan, c'est déjà ça de sûr.
Jadis voyageant pour Rome, un pape né sous le froc, pris sur mer fut le pauvre homme, mené captif à Maroc. D'abord il tempête, il sacre, reniant Dieu bel et bien. Saint-Père lui dit son diacre, vous vous damnez comme un chien, vous vous damnez comme un chien. Sur un pâle que l'on aiguise, croyant déjà qu'on le met, le fondement de l'église, dit un gaucon, on m'a honné. Ce prophète en vaut bien d'autres, je me fais son paroissien. Saint-Père au nez des apôtres, vous vous damnez comme un chien, vous vous damnez comme un chien. Aïe, 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 on le circoncise, le voilà bon musulman. Sinon parfois qu'il se grise avec un coquin d'imam. Il fait de sa vieille Bible un usage peu chrétien. Saint-Père, c'est trop risible, vous vous damnez comme un chien, vous vous damnez comme un chien. En vrai corsaire, il s'équipe, pour le croissant il combat. Prend le sorbet et la pipe, dans un harem il s'ébat. Près des femmes qu'il capture, voyez donc ce grand vaurien. Saint-Père, quelle posture, vous vous damnez comme un chien, vous vous damnez comme un chien. À Maroc survient la peste, soudain fuit notre Forban, qui dans Rome d'un air leste rentre avec son beau turban. Souffrez qu'on vous rebaptise, non dit-il, ça n'y fait rien. Saint-Père, quelle bêtise, vous vous damnez comme un chien, vous vous damnez comme un chien. Depuis frondant nos mystères, ce renégat enragé veut vider les monastères, veut marier et le clergé. Sous lui l'église déchue, ne brûle juif ni païen. Saint-Père, Rome est fichue, vous vous damnez comme un chien, vous vous damnez comme un chien.
Maintenant ce tableau, vous ne le connaissez peut-être pas, il faut vous le décrire, allons-y. Courbet écrit. Ils sont sept, comme les sept vaches grasses de la Bible ou les sept péchés capitaux. Ils reviennent de la conférence, suivis d'un repas qui chaque semaine les réunit dans une des cures du doyenné d'Ornans. La chair a été particulièrement soignée et les vins généreux. Or donc, la scène représente des prêtres totalement ivres, sortant d'une conférence ecclésiastique en Franche-Comté. Au fond, les rochers de la brème d'Ornans, au second plan, une vierge au chêne, celle de Notre-Dame du Chêne, on y reviendra, qui assiste désolée aux premières loges à la scène. Le plus obèse des curés est monté sur un âne qui ploie sous la charge, l'âne retenu au collet par un autre ecclésiastique, tout déséquilibré, tandis que deux autres curés entourant l'âne tentent de maintenir le curé obèse en place, le curé Didier, comme il s'est reconnu lui-même sur le tableau. Derrière, deux curés éméchés, dont l'un un peu moins que l'autre, tentent d'enrayer sa chute d'homme ivre, et un paroissien, voyant arriver le cortège, se bidonne du spectacle, tandis que sa femme tombe à genoux devant le cortège. Le père Poulot et Lamny sont deux franc-comtois du secteur.
Oh, ce bas monde, quoi de plus triste qu'un mille pattes unijambiste qui un matin d'Assomption eut obtenu sa guérison et prenant sa canne et sa gourde et 500 paires d'espadrilles s'en fut allé suspendre à Lourdes 999 béquilles.
Courbet et les curés à son époque. Courbet était un esprit rebelle à beaucoup de choses et à l'autorité sous toutes ses formes. Difficile d'imaginer qu'il ait pu gober, même tout jeune, l'ordre moral imposé par les curés, en plus des croyances qu'il qualifia vite d'imposture et de charlatanisme. Avec un programme de « bannir le mystérieux, le merveilleux, ne pas croire à l'incompréhensible » et « renoncer aux maximes du Christ en tout ce qui condamne et empêche l'homme de se révéler dans sa puissance ». Dans ses dispositions, il était bien parti pour l'anticléricalisme. Il reprochait par exemple aux élites d'Ornans d'empêcher l'éducation laïque et de donner une subvention aux frères ignorantins de telle sorte que la population se maintienne dans la béatitude du crétinisme. En 1871, il écrivait « Nos vrais ennemis n'étaient pas les Prussiens, c'étaient nos amis les réactionnaires français aidés du clergé ».
Cessez de n'avoir Dieu que pour les prophètes. Faites sauter tout ce qu'on respectait, qu'on respecte. Et cette terre promise se révélera toute proche. Vous attendez que quelqu'un d'autre vous en parle. Mais elle est ici même, à portée de vos mains. Où sont vos mains? Qu'en faites-vous? Vous formez des croix avec vos bras inutiles. Vous vous serrez comme des pauvres alors que vous êtes riches. Regardez toute cette richesse autour de vous. Comment le vent ose-t-il jouer avec cette arche? À bas le joug impudent de la nature. Vous vivrez au chaud et dans la lumière, en faisant mouvoir l'électricité par les vagues. Et si vous vous retrouvez au fond, ce n'est pas terrible. Le fond de la mer est net comme une prairie. Le charbon, notre pain quotidien, y pousse. Le vent peut bien hurler tous ces déluges. Le flanc des arches récipients craqué. La droite, la gauche, voilà les deux choses qui nous sauveront. J'ai terminé, je vous rends la parole, je redeviens muet.
J'ai toujours été un tact de Dieu, et c'est en pure perte que ces émissaires, ces commissaires, ces prêtres, ces directeurs de conscience, ces ingénieurs des âmes, ces maîtres à penser, se sont évertués à me sauver. Même tout petit, j'étais déjà assez grand pour me sauver moi-même dès que je les voyais arriver. Je savais où m'enfuir, les rues. Et quand parfois, ils parvenaient à me rejoindre, je n'avais même pas besoin de secouer la tête. Il me suffisait de les regarder pour dire non. Parfois pourtant, je leur répondais, c'est pas vrai. Et je m'en allais là où ça me plaisait, là où il faisait beau, même quand il pleuvait. Et quand de temps à autre, revenaient avec leur trousseau de mots-clés, leur cadenas d'idées, les explicateurs de l'inexplicable, les réfutateurs de l'irréfutable, les négateurs de l'indéniable, je souriais, répétais, c'est pas vrai. Et c'est vrai que c'est pas vrai. Et comme ils me foutaient zéro pour leur mentir millénaire, je leur donnais en mille mes vérités premières.
Mais dans l'histoire du tableau, il y a aussi un épisode qui va nous arrêter un peu longuement. En effet, en 1868, Courbet propose pour le Salon de Gand en Belgique le tableau avec 11 autres œuvres. Et dans un espace séparé, non ouvert au grand public, vont être exposés Le Retour de la Conférence, La Mort de Jeannot et Deux Nus Splendides, La Femme à la Vague et La Femme au Chien. Deux tableaux anticurés et deux tableaux érotiques. Et à cette occasion, il va proposer au public deux petits ouvrages non signés dont on peut penser qu'il n'est pas l'auteur, mais dont il a confié la rédaction à un auteur à partir des anecdotes et réflexions qu'il lui a indiquées. On peut le croire, sauf s'il s'agissait pour lui de se dédouaner, mais se dédouaner après les illustrations avait-il un sens ? Car il a écrit le 11 septembre 1868 « Vous avez mes deux tableaux, l'un le vol, l'autre la soûlerie. À l'appui de ces deux tableaux, j'ai fait écrire deux notices ou histoires de faits véridiques à ma connaissance qui ont donné lieu à ces tableaux. J'espère que ça va donner lieu à une grande guerre, car j'ai dans la volonté de les pousser loin. Nous serons excommuniés, espérons-le, puisque nous ne sommes pas décorés. On va rire. Le texte n'est pas écrit selon mon gré, mais ce n'est pas important, les dessins suffiront. Je vois d'ici l'archevêque de Malines. » Fin de la citation de sa lettre. Ces deux brochures, il n'est pas impensable que ce soit le journaliste proudhonien Pierre Denis qui les écrivit. Les deux notices s'intitulent l'une « Les curés en goguette » et l'autre « La mort de Jeannot, les frais du culte ». Elles se présentent sous la forme de deux petits ouvrages d'une trentaine de pages, format environ 20x12, avec, et ce n'est pas le moindre de leur intérêt, 6 dessins de Courbet pour illustrer les curés en goguette et 4 dessins de Courbet pour illustrer la mort de Jeannot. Ces ouvrages originaux, bien sûr introuvables aujourd'hui, sont des collectors et sur Internet on peut se les procurer aux environs de 500 €. Ils sont ainsi achetables. Du moins, un exemplaire semble être disponible. À noter que les curés en goguette ont été réimprimés une fois en 1884. On peut aussi les consulter dans de rares bibliothèques, dont celle de Besançon, mais surtout, ils sont aisément accessibles et gracieusement grâce au site Gallica de la BNF. Nous disions donc que deux opuscules ont été édités sans nom d'auteur, mais par contre, sur la couverture, il est écrit La mort de Jeannot, les frais du culte, avec 4 dessins de Gustave Courbet, exposition de Gand 1868, prix 1 franc. Les curés en goguette, avec 6 dessins de Gustave Courbet, exposition de Gand 1868, prix 1 franc. Bref, c'est un peu le catalogue de l'exposition qui est proposé là. Le tableau, La mort de Jeannot, est répertorié comme œuvre disparue. C'était un tableau de 140 par 100 cm. Je n'en sais pas plus. Je me propose donc de vous lire un large extrait de cet opuscule, texte qui, à lui seul, vaudra toutes les explications que l'on pourrait fournir sur les reproches que Courbet adressait aux prêtres. Auparavant, vous avez entendu Jacques Prévert, qui disait son texte « J'ai toujours été intact de Dieu » après que Pierre Delhomme disait Vladimir Mayakovsky sur la musique de Gérard Mémone, le morceau « Montebello ». Auparavant encore, c'était Paul Villas qui interprétait sa composition « Le mille-pattes ». Auparavant toujours, Serge Rau interprétait sur des paroles de Pierre-Jean Béranger « Le pape musulman ». Et à notre début d'émission, au tout début, c'est Marc Augeret qui interprétait la traditionnelle chanson du Père Duchesne. Après avoir expédié sa messe et ses visites, le curé traverse le village pour se rendre à la conférence. Mais il n'oublie pas de gratifier ses ouailles de quelques lazis destinés à produire bientôt leur effet. Puis, afin de ne pas perdre de temps, il se met à lire son bréviaire. La cure où doit avoir lieu cette réunion est assiégée dès 11h30 par les curés voisins qui, l'un à pied, l'autre hissé sur le char rustique d'un de ses paroissiens, ou bien encore à califourchon sur son propre baudet, arrivent qu'à un cas, munis de l'inséparable sac de lustrine noire, renfermant outre le bréviaire une chemise blanche, et une bouteille vide. À l'apparition des trognes rubicondes de ses pasteurs, leur servante, venue dès le matin pour aider la cuisine de l'amphitryon, s'avance sur le seuil de la porte, le sourire aux lèvres. C'est l'ouverture officielle de la conférence. Rien n'est plus réjouissant que la vue de la cuisine en ce moment. Cette pièce a quatre entrées. La porte de la rue, celle d'un escalier conduisant à l'étage supérieur, une troisième donnant sur l'écurie, enfin la porte du poêle, c'est-à-dire de la salle à manger. Sous le manteau de la cheminée se balance une vingtaine de jambons, une large pièce de lard et un nombre illimité de saucissons, le tout suivant la ferveur des fidèles. Contre les parois de la cuisine règnent, à une certaine hauteur, plusieurs rayons sur lesquels sont placés par rang de taille des chaudrons et des casseroles en cuivre. Une bassinoire est suspendue auprès de la cheminée entre la salière et le tonnelet de vinaigre. Ce dernier sert de monture à un bacchus de fer blanc. Le dressoir est garni de plats à poissons et d'assiettes enluminées de coques et de tulipes à la façon hollandaise. Des verres en cristal taillé, donnés par les élèves du catéchisme, scintillent à côté de quelques porcelaines communes. Une longue table de chêne, chargée d'ustensiles, occupe le milieu de la cuisine. Ça et là, des chaînes d'eau et d'oignons se balancent aux poutres du plafond. Enfin, le fourneau, garni de réchaud, occupe l'embrasure de la fenêtre. Le curé de X entre le premier. Il s'avance auprès de la sœur de son confrère et lui fait quelques compliments rabelaisiens sur sa merveilleuse conservation, sur sa beauté hors ligne et sur l'excellente tenue de la cure. Le desservant de Y le suit de près. Celui-ci est un compère égrillard qui paraît s'intéresser beaucoup au développement des formes de certaines cuisinières à l'œil de basilic. Après avoir poussé une reconnaissance très avancée dans la poitrine de cette Gertrude aux petits pieds, il tourne vivement sur ses talons et va inspecter les bouteilles rangées sur la crédence. Il les prend une à une, les examine avec amour et ne les quitte qu'après s'être assuré de l'authenticité des crus. « Dieu soit béni, » dit-il en fermant benoîtement les yeux. « Je vois que monsieur le curé ne songe pas encore aujourd'hui à nous donner un avant-goût du purgatoire. » Pendant ce temps, le curé de Z, les lunettes sur le front et le tricorne sous le bras, s'avance près des réchauds, sur lesquels mitonnent des ragoûts odorants. Il soulève successivement les couvercles des plats, hume le fumet qui s'en échappe, et prend un air paterne pour dire « Ah, vraiment, mademoiselle scolastique, vous vous êtes donné trop de peine. Il y a là de quoi traiter tout un séminaire. » « Mon Dieu, monsieur le curé, j'ai fait ce que j'ai pu, et ce n'est guère. »
« Que dites-vous, seigneur? Mais jamais nous ne pourrons rendre un tel dîner. »
Un jeune vicaire qui a sans raison et des meilleurs pour gagner les bonnes grâces de la gouvernante s'approche du gigot et donne un tour de clé à la broche en se pourléchant les babines. Tout à coup, le maître du logis surgit de la trappe de la cave et apparaît, suant et soufflant, chargé d'un énorme panier de bouteilles destiné à éteindre le premier feu. Alors, tous les convives suivent leur amphitryon à la salle à manger. Des éclairs de convoitise passent dans leurs regards et une noble ardeur se lit sur leurs traits. On comprend que ces gens-là vont s'occuper d'une des plus importantes affaires de leur vie. La salle à manger est une pièce peinte en gris et boisée jusqu'au plafond. Elle est ornée de lithographies de la rue Saint-Jacques, bordée de hêtres vernis, d'un dieu seul brodé en perles de verre et d'une pendule Louis XVI enveloppée de gaz et placée contre la muraille sur une petite console. Devant la glace, au-dessus de la cheminée à tablette de bois, se prélasse une nouvelle Sainte Vierge, c'est-à-dire une bonne femme en plâtre, à la recherche d'un enfant ou d'une position sociale. Tous les convives restent debout derrière leur chaise pendant que le curé récite le bénédicité. La prière terminée, l'amphitryon s'assied dans un fauteuil même style que la pendule et ses confrères l'imitent. L'attaque commence alors sur toute la ligne. Et quelle attaque ! On entend d'abord que le bruit des mâchoires et les soupirs de satisfaction des perpétrants. Mais bientôt le silence est rompu par la première rasade. Le coup du médecin. Alors la gaieté fait invasion autour de la table. Au coq à l'âne naïf, au grossier lazy, succèdent quelques traits mordants inspirés par la charité chrétienne à ces dignes mangeurs dont quelques-uns ne dédaignent pas le calembour. La chronique grotesque et scandaleuse des localités voisines défraie ensuite la conversation. On signale les actes impies bien connus. On nomme ceux qui, depuis la dernière conférence, ont pactisé avec les suppôts de Satan, et on cite les conseillers municipaux qui ont eu l'audace de s'opposer aux demandes de crédit formulées par leur pasteur, les misérables. Ce dernier scandale cause des frémissements d'indignation aux conférenciers, et ils sont obligés d'en chercher l'oubli dans le ventre des flacons. Pauvres gens. Puis, à l'aide d'une rapide évolution, on se retourne et on fait une charge à fond de train contre les insensés qui blâment l'érection de certains monuments excentriques, élevés naguère sur tous les points culminants et surtout aux abords des routes. Ces monuments, dorés et argentés comme les idoles du paganisme, rappellent tout à la fois les mœurs de l'Inde et les plus sauvages époques du Moyen-Âge. Leurs défenseurs naturels sont donc ceux qui s'efforcent de replonger l'homme, à peine sorti des langes de l'ignorance, dans toutes les sinistres horreurs du fanatisme et de la barbarie. La confession a ensuite son tour. C'est le plus piquant hors d'œuvre de la conférence. Aussi faut-il voir comme les yeux brillent et comme chacun prête l'oreille lorsque le petit curé de D raconte les faits et gestes de la grande Claudine M., une créature endiablée qui a damné plus de vicaires depuis 5 ans que l'évêque n'a eu de maîtresse. L'un répète d'une petite voix imitative les confidences bouffonnes de la femme de Jean qui se plaint de ceci, de cela et surtout des procédés conjugaux de son mari. Un autre raconte l'histoire ingénue d'une jeune fille qui lui a demandé la canonisation par anticipation sous prétexte qu'elle doit bientôt donner un ange de plus à la catholicité. Le curé de X explique jusqu'où va le crétinisme de ses paroissiens en répétant la confession d'un grand adept désireux d'avoir une instruction orthodoxe sur la manière d'exercer ses fonctions maritales. Après la confession, qui a égayé ses joyeux viveurs jusqu'aux larmes, viennent des discussions politiques.
Aussitôt, chaque convive prend une dose de recueillement conforme à la circonstance et répète tant bien que mal des bouteilles veuillotistes ou les épigrammes moins imagées du révérend père N. Mais sur ce terrain brûlant, les discussions ne tardent pas à prendre le droit de cité. On est d'accord quant au but. Comment donc ? Tous les chasseurs poursuivent le gibier, les moyens diffèrent, voilà tout. Mais ces diables de moyens amènent parfois des discussions qui dégénèrent en querelles, puis en... Si bien qu'au bout d'une demi-heure de conversation politique, il est rare que les conférenciers, toujours atteints en ce moment d'un commencement d'ébriété, n'en viennent à discuter avec la grâce et l'aménité d'une troupe de portefaix se préparant à s'écharper mutuellement en l'honneur des beaux yeux de Marie Trognon. Bientôt, le désordre atteint des proportions menaçantes. Chacun veut parler et personne n'écoute. Des mots cruels sont échangés avec une rapidité vertigineuse. Aux provocations succèdent les défis. Enfin, il arrive un instant où le bruit monte à un tel diapason que la salle à manger ressemble à une cellule de Bicêtre dans laquelle on aurait enfermé 10 poètes atteints d'aliénation mentale. Les servantes, attirées par le vacarme, entrent successivement dans la pièce et cherchent à calmer la violence des disputeurs. Effort louable, mais inutile. Reçues comme des diablesses dans une sacristie, les malheureuses sont chassées du sanctuaire et s'enfuient, accablées d'expressions qui semblent complètement étrangères aux bréviaires. Cependant, l'amphitryon fait un suprême effort et parvient à dominer un instant le tumulte. « Messieurs, s'écrie-t-il le visage en feu, il faut cependant s'acquitter de ses devoirs. Oui ou non, voulez-vous écouter la lecture des instructions de quinzaine du prélat ? Parlez, parlez ! Mais cela m'est absolument impossible au milieu de cet épouvantable charivari. Silence, silence ! C'est vous qui troublez l'ordre avec vos cris de bête fauve. Non, c'est vous. J'en ai donc menti. Messieurs, encore une fois, voulez-vous m'écouter ? Mais loin de se rendre à l'invitation de leurs collègues, les enragés s'apostrophent avec un redoublement de violence et de bruyantes clameurs partent de tous les coins de la salle. Le curé de C, chez lequel se passe la conférence, dont il est particulièrement ici question, était un gaillard doué d'une grande force physique. À la fonderie de cloches de M, il souleva un jour entre ses jambes une cloche de 500 kg et la fit sonner comme un grelot. Un autre jour, il passait dans un endroit écarté, lorsque 3 maçons se mirent à crier derrière lui. « Quoi, quoi ?» Le curé se retourna tout à coup et dit à ses insulteurs. « Quel est celui d'entre vous qui a crié « Quoi, quoi ?»« Si vous me le dites, je n'en tuerai qu'un seul. » Les maçons effrayés gardèrent le silence. Alors le curé s'empara du premier qui lui tomba sous la main et le lança à une dizaine de pas. En revanche, l'éloquence du bonhomme laissait beaucoup à désirer, et en voyant son encolure de taureau, on devinait qu'il eût été plus à l'aise en caleçon de lutteur devant Arpin, le tombeur des crânes, que dans un surplis garni de dentelles. Mais son père aimait tant le goupillon. Le dessert est grignoté dans les conditions habituelles, c'est-à-dire dans le plus parfait désordre. Puis tout à coup, sur une question de jeune bigote, deux curés s'élancent l'un sur l'autre. Voilà la guerre allumée. Excités par cet exemple belliqueux, les autres convives ne tardent guère à se prendre aux cheveux et un combat général s'engage dans la salle à manger. L'amphitryon, resté neutre jusqu'à ce moment, fronce les sourcils en voyant son mobilier entrer en scène et jouer la principale partie de ces messieurs. « Oh oh !» se dit-il, « voilà des gredins qui en veulent décidément à mes meubles. Mais je suis un bueur routier, et j'ai plus d'un tour dans mon sac, nous allons voir. » La mêlée est arrivée à son apogée. Le curé de X, armé d'une chaise, saute sur la table et brise tout ce qui lui tombe sous la main. Les plats, les assiettes, les bouteilles et les verres voltigent de tous côtés en menus fragments. Un convive a le front fendu, un autre a l'épaule meurtrie et un troisième crie à tue-tête qu'on lui a cassé le bras. Chacun essaie de se dérober au coup de la terrible massue. Cependant, la servante de l'amphitryon, enflammée d'une noble ardeur, s'élance bravement au milieu de la bagarre pour essayer de sauver le plat chéri de son maître, une crème fouettée à la neige. Sa sœur lui emboîte héroïquement le pas. Déjà, elle a saisi le bienheureux entremets lorsqu'un vieux compère de la dive bouteille, frappé d'un coup terrible par l'exterminateur, tombe sur la pauvre fille et la renverse au milieu de la pièce. La malheureuse, fidèle à son drapeau jusqu'au bout, essaie de retenir le plat de crème. Nouvelle et bien triste déception, l'entremets sort du vase et tombe en mousse épaisse sur sa poitrine et sur son visage. À la vue de cette déplorable catastrophe, l'amphitryon ne peut plus maîtriser sa colère. Il court ouvrir la fenêtre, saisit le premier combattant qu'il rencontre et le lance à toute volée dans le jardin. Enflammé par ce premier succès, le terrible curé prend un à un tous ses convives et leur fait suivre le même chemin. Rien n'est plus grotesque que les cabrioles exécutées par ces messieurs dans leur route aérienne. Ils ressemblent à des hirondelles de clocher auxquelles on aurait coupé les ailes. Ce curé était un rude compère. Mais pourquoi diable avait-on emprisonné ses instincts belliqueux dans une soutane? Je crois le savoir. Il aimait la bonne chair et la guimpe de Marguerite. On n'est pas parfait. Le combat, un instant interrompu, ne tarde pas à recommencer sous les pommiers du verger, car le premier curé qui passe par la fenêtre s'élance sur le second et tous deux tombent bravement sur le troisième. Si bien que la lutte commencé à table, se prolonge jusqu'à 5 ou 6 heures du soir dans le clos. Ah, la religion a de vaillants champions dans ces braves gens, et en voyant leur ardeur au combat, on comprend bien toute la ténacité de leurs convictions. Lorsque la conférence établie pour l'édification morale des prêtres est arrivée à ce point, les conférenciers décident à panser leurs blessures et à rajuster leurs vêtements. Puis ils reprennent bientôt, munis du sac à malice, le chemin de leur paroisse. Dans le cas contraire, les curés se font mutuellement la conduite et donnent quelquefois aux passants un spectacle qui ne manque pas de gaieté. Un jour, un paysan occupé dans son champ apostropha un voyageur qui passait sur la route. « Courez donc à 25 pas d'ici, monsieur, lui dit-il. Vous y verrez un joli tableau. Qu'est-ce donc ? Il y a dans le fossé de la route un gros tas de curés qui essaient inutilement depuis une demi-heure de se tirer de là. » Le voyageur s'avança et vit en effet un assez grotesque spectacle. Tout au fond du fossé gisait un énorme curé, enseveli sous un âne qui lançait force ruade à plusieurs ecclésiastiques, essayant vainement de relever l'homme et la bête. Ces messieurs sortaient d'une conférence dans laquelle ils avaient largement fêté la douce purée septembrale. Mais aussitôt qu'ils eurent pris l'air, ils commencèrent à pâlir et à chanceler. L'un d'eux, énorme gaillard pesant près de 140 kilos, s'était hissé sur un petit âne d'une placidité vraiment philosophique. Tout alla bien pendant un instant, mais les mouvements irréguliers de l'homme qui cherchait constamment à reprendre son centre de gravité firent si bien chanceler le baudet que celui-ci finit par être entraîné sur le bord de la route. Une fois là, la lutte d'équilibre ne dura que quelques secondes. La terre céda tout à coup et l'âne roula dans le fossé avec son maître. Eu égard à son poids énorme, le curé jouit du privilège d'arriver le premier au fond du trou. À ce spectacle, les conférenciers et ses collègues firent assaut de zèle pour lui venir en aide, et en dignes ivrognes qu'ils étaient, ils se gourmèrent quelque peu et finirent par tomber sur ceux qu'ils voulaient secourir. Une fois serrés entre les parois étroites du fossé, hommes et bêtes s'escrimèrent pendant plus de 20 minutes pour en sortir. Les cris, les plaintes et les menaces des curés, coupés par les braiements lamentables du Baudet, formaient une cacophonie de nature à faire mourir de jalousie tous les musiciens d'un orchestre chinois. Le voyageur fut obligé de se boucher les oreilles pour se soustraire à cet infernal charivari. Comme l'âne était en somme la seule créature de sang-froid, il eut l'honneur de sortir le premier de sa prison debout. Après 1000 efforts, les curés parvinrent à l'imiter, mais il leur restait une tâche presque héroïque à accomplir, c'était la réintégration de leur énorme confrère sur sa monture. Cette besogne se fit de la manière suivante. Un curé saisit d'abord l'âne par la bride, un autre appuya ensuite le ventre du cavalier contre le flanc de l'animal, puis un troisième passa de l'autre côté, prit son confrère par les épaules et essaya de le coucher sur le dos du quadrupède, tandis que l'abbé N s'efforçait de soulever une jambe de l'ivrogne et de la faire passer par-dessus l'échine de maître Liboron. Le paysan se tordait de joie, mais sa femme qui venait de le rejoindre se jeta à genoux et se mit à prier avec ferveur pour neutraliser l'effet d'un tel scandale. Lorsque le curé eut repris sa place, ses 10 collègues l'entourèrent pour le protéger contre une nouvelle chute. Les malheureux n'avaient point du tout le désir de recommencer à faire de la gymnastique. Bientôt, le convoi se remit en marche. Cette fois, le vicaire de l'ivrogne tenait la bride de l'animal. Venaient ensuite 2 vieux roublards ayant depuis de longues années l'expérience de la bataille. Un de ces braves, homme à traits violents, bouleversé comme les terrains jurassiques, avait la tête couverte d'un gazon élémentaire, c'est-à-dire d'un morceau de peau de vache à moitié chauve. Il s'appuyait sur un jeune séminariste qui l'aidait à se relever car il tombait fréquemment sur les genoux. À chaque chute, cette espèce de maquignon, il vendait du bois et même des chevaux à ses paroissiens, ce maquignon, dis-je, proférait d'épouvantables imprécations contre les ennemis de la religion et frappait avec fureur le sol avec sa canne à pomme d'ivoire. Il changeait souvent de ton et se moquait alors des blancs-becs incapables d'ingurgiter une demi-douzaine de fioles sans chanceler. Quant à son confrère, il se haussait de temps en temps sur un pied comme pour porter un défi à l'intempérance des autres curés, ce qui ne l'empêchait pas de perdre son chapeau. Les servantes, qui avaient apporté leur concours à la cuisinière du curé Amphitryon, ayant terminé leur besogne, se mirent en route pour rentrer chez elles et ne tardèrent pas à rejoindre la grotesque procession. Elles étaient chargées de paniers contenant des friandises échappées à la mêlée pantagruélique et destinées tant au déjeuner de leur maître qu'aux enfants de cœur. Les petits cadeaux entretiennent la dévotion. Ces pieuses filles offrirent aussitôt leur service à la sainte troupe, et l'une d'elles prit des mains d'un vicaire, nageant dans l'espace éthéré, la bride de l'âme pour diriger le convoi. Quant à ses compagnes, elles se bornèrent à égrener leur chapelet, on n'a jamais su dans quelles intentions. Le cœur d'une jeune vierge est un mystère dont son confesseur doit seul avoir la clé. Cette scène se passait sous un arbre où se trouvait une petite Notre-Dame en plâtre, logée au fond d'une niche creusée dans le tronc et protégée par un treillis de fil de fer. Cette niche était remplie d'ex-voto et de menus bibelots à l'usage spécial des vieilles bigotes. Comme bon nombre de dévots sont convaincus que l'aspect d'un ivrogne arrache des larmes de douleur à la Sainte Vierge, le voyageur, qui croyait naïvement que Notre-Dame avait toutes les raisons possibles pour en verser à torrent ce jour-là, l'examina avec attention. Mais les miracles ne sont pas faits pour les impies. La petite statuette était sèche comme les lits du Manzanares au mois de juillet. Lorsque le conférencier rentre enfin à son presbytère, il arrive assez fréquemment qu'il soit obligé de réclamer les prompts secours de sa gouvernante. En ce cas, cette dernière se hâte d'allumer le feu, de préparer le thé et de faire la couverture. Quand les rivières sont enflées outre mesure, il est sage de se mettre en garde contre les débordements. La crise se présente bientôt. Le curé, à moitié déshabillé, se tord dans son fauteuil en proie à des spasmes nerveux qui annoncent une prochaine catastrophe. Marie Thorne, habituée à ces sortes d'accidents, se munit tout d'abord du vase cher à ce bon monsieur Thomas. « Du thé, du thé !» crie le curé d'une voix entrecoupée de hoquets. La servante surmenée apporte la boisson à peine tiède. Son maître l'engloutit avec la voracité que mit certaines baleines à happer un infortuné prophète. Mais patatras, l'inondation se déclare avant que la gouvernante ait pu lui opposer des digues suffisantes. Ce n'est rien. Marie Thorne en a vu bien d'autres. Tout en soutenant la tête de son maître, elle le coiffe du casque pacifique, illustré par Jérôme Patureau, puis elle assujettit ce couvre-chef à l'aide du ruban traditionnel. Le feu s'est allumé et la servante décroche la bassinoire. Elle se prépare à glisser monsieur le curé dans son lit comme une galette de sarrasin dans le four du presbytère. Tout à coup, le vicaire, enluminé comme une betterave apoplectique, fait son apparition à la porte de la cuisine. Il étend les bras en avant, oscille, chancelle et finit par tomber comme un sac de plomb sur les dalles. Cette fois, Marie Thorne est fort embarrassée. Elle court implorer l'aide du sacristain et de sa femme. Ceux-ci, réveillés en sursaut, se lèvent à la hâte et accourent dans le plus simple appareil. Pour des gens qui se croient habillés, ils ne peuvent avoir moins de vêtements sur le dos. Tous deux s'approchent de l'infortuné vicaire. Ils le soulèvent, non sans effort, et finissent par le transporter à l'étage supérieur où se trouve sa chambre. Après une journée si bien remplie, n'a-t-il pas le droit de goûter un paisible repos? Pendant que ces deux vaincus expient leur faiblesse, quelques champions plus heureux se réunissent chez le curé de S où il a été décidé qu'on fera la soupe au fromage. En attendant que ce mets de circonstances soit préparé, ces messieurs saisissent les cartes et une discussion s'engage sur le genre de la partie qu'on doit jouer. Comme les joueurs ne sont pas assez nombreux pour le tarot, on adopte la bête ombragée ou la drogue. La drogue est un jeu dans lequel on inflige au perdant la pénitence de recevoir une pince en bois qui lui serre le nez. À chaque point perdu, on ajoute une nouvelle pince, et il arrive un instant où le malheureux joueur a la tête enveloppée d'une auréole de drogue, c'est-à-dire de morceaux de bois fendu. La soupe au fromage réveille l'appétit de ses disciples de Gargantua, et ils attaquent ensuite vigoureusement un saucisson, un jambon ou tout autre hors d'œuvre disponible. Alors la bouteille entre de nouveau en lice et les rasades se succèdent avec une promptitude qui donne la plus haute idée de la capacité des estomacs ecclésiastiques. Quelquefois, l'ivresse du moment se greffe sur l'ébriété de la concurrence et on en vient à se reprendre de nouveau aux cheveux. Et cependant, l'homme est un animal raisonnable, il faut le dire vite et tourner le feuillet. Dans quelques localités, l'eau de vie détrône le vin. Voici l'anecdote que le neveu d'un curé racontait dernièrement à ce sujet. Lorsque mon oncle est absent, je fais les honneurs du presbytère à ses confrères, et voici comment j'arrive à leur faire boire de l'eau de vie presque pure au lieu du vin. Dans la première bouteille, je verse un demi-verre d'eau de vie. Dans la seconde, je mets le verre entier, et je vais toujours en augmentant jusqu'au moment où le breuvage est à peine coloré. Ils n'ont cependant jamais l'air de s'apercevoir de ce petit manège. On a vu parfois des curés sortir d'une conférence dans un tel état d'ivresse qu'ils étaient obligés de se coucher au milieu de la campagne pour y passer la nuit. Ce sont sans doute des ermites dévoyés qui se donnent de temps en temps ainsi la satisfaction d'imiter les pères du désert. Parfois, l'intempérance de ces messieurs leur attire de cruelles lazies. Exemple, un paysan qui conduisait deux cochons gras dans sa charrette est interpellé par le cantonnier. « Eh bien, compère, lui dit ce dernier, tu vas à la foire? Bonne chance. Merci. » À son retour, le paysan rencontre deux curés tellement gris qu'ils ne peuvent faire un pas de plus. Obéissant à un sentiment d'humanité, il les hisse dans sa voiture et fouette son cheval. Bientôt, il arrive devant le cantonnier. Celui-ci jette un coup d'œil satirique sur les curés et dit au paysan d'un ton intraduisible « Tu n'as donc pas vendu ?» Il n'est pas extraordinaire que des gens habitués à se laisser aller à de tels excès commettent des actes lubriques et honteux. Cependant, certaines corruptions ont plutôt sa source dans les maisons religieuses que dans les presbytères. À ceux qui ne se contentent pas de lire entre les lignes, on peut recommander la lecture du siècle. Cette narration est suffisante pour donner au public une idée des conférences. Je ne sais jusqu'à quel point ces momeries prétendues religieuses peuvent être utiles à la morale, mais j'avoue que je serais heureux d'être édifié à ce sujet. Si je ne craignais pas de retomber dans ces vérités si banales qu'elles sont devenues des rengaines, je pourrais dire qu'il faut être bien absurde pour croire que l'humanité peut retirer quelques fruits de ces exhibitions grotesques, de ces cérémonies empreintes de charlatanisme, qui ont l'orgueilleuse prétention de moraliser les masses, mais qui ne servent en réalité qu'à mieux démontrer la folie des uns et la douce imbécilité des autres. Cependant, j'ouvre ici une parenthèse. Oui, il est vrai que dans beaucoup de villages, le spectacle des solennités de l'Église a son côté utile. Les paysans, oisifs le dimanche, trouvent dans ces cérémonies une ample pâture pour leur esprit, et tandis qu'ils s'occupent des faits et des gestes de leur curé, ils ne s'inquiètent point de leurs intérêts politiques et sociaux. C'est tout profit pour ceux qui les gouvernent. Ah, si les hommes chargés de l'éducation publique avaient, depuis 100 ans, dépensé d'une façon équitable la moitié de l'argent qu'ils prodiguent pour maintenir le peuple dans le crétinisme, on ne songerait pas aujourd'hui à combattre de telles turpitudes, car elles n'existeraient plus. Celui qui a inventé les cérémonies du culte catholique était un grand génie, il ne faut pas se le dissimuler, mais son but n'était point l'émancipation intellectuelle du peuple, tant s'en faut. Je voudrais bien connaître l'opinion du Christ à ce sujet. En somme, le moment semble venu de donner un vigoureux coup d'épaule pour renverser cet échafaudage officiel de jonglerie ridicule. Du reste, la religion n'est point mise ici en jeu. Il ne s'agit que des menées absurdes de quelques-uns des hommes qui ont la prétention de la représenter. Que chacun s'enrôle sous la bannière de son choix et qu'il soutienne ses pasteurs, rien de plus juste, c'est la liberté de conscience. Mais pourquoi une religion d'État? Est-il juste et surtout prudent de conférer à une caste qui a malheureusement fait ses preuves le soin exclusif d'instruire et de guider la jeunesse? Peut-on continuer à forcer un père de famille, dont les idées sont diamétralement opposées à celles des prêtres, de payer leur saturnale sur ses impôts, lorsque saturnale il y a? Non, non, mille fois non. Donc le seul remède à apporter à cet ordre de choses est de proclamer la liberté absolue des cultes, et de laisser aux croyants de toutes les communions le soin de rétribuer leurs ministres. Les églises et les maisons conventuelles pourraient alors être louées aux prêtres qui voudraient courir les chances d'une entreprise religieuse. De cette façon, la dignité de l'homme serait sauvegardée et chacun serait l'arbitre suprême de ses intérêts spirituels. Il faudra bien qu'on en arrive là. Thank you.
Thank you.